Chères auditrices et chers auditeurs, avant de vous laisser écouter cet épisode, l'équipe Cultura et moi-même tenions à vous informer que la communauté Cultura Créa ferme ses portes fin avril 2024 pour mieux se réinventer plus tard. Nous vous remercions donc très sincèrement pour toutes vos écoutes du podcast, vos retours et votre bienveillance à l'intention des créatifs qui sont passés au micro du podcast. Membres de la communauté et collaboratrices et collaborateurs de Cultura, un grand merci à vous pour cette expertise et cette passion partagée autour du DIY et des beaux-arts. Nous nous sommes régalés. Du côté du podcast, les épisodes restent en ligne, donc vous pouvez continuer d'écouter ou de réécouter les épisodes autant que vous voulez. Je vous invite par exemple à écouter les épisodes autour du macramé, des mangas, de l'argile, des feutres à alcool, de la broderie, du moulage de savon et de bougies, ou encore du tricot. Vous ne devriez donc pas manquer d'inspiration créative pendant les prochains mois. On vous donne évidemment rendez-vous sur cultura.com pour la suite des aventures. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cultura Créa. Je m'appelle Mélanie Sena et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour parler loisirs créatifs et beaux-arts. Deux fois par mois, je partage avec vous des rencontres avec les équipes de Cultura et avec les membres de la communauté Cultura Créa. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous préfériez créer seul ou en famille, nous vous parlons de tous ces arts créatifs que vous aimez. Aujourd'hui, c'est une nouvelle rencontre avec Juliette Michelet que nous vous proposons. Juliette est créatrice textile, brodeuse professionnelle et autrice aux éditions de Saxe. Elle est notamment fan d'art du fil en tout genre. Elle nous raconte comment sa maman lui a transmis sa passion pour le tricot et elle partage avec nous énormément de conseils autour de cet art du fil ancestral. Si vous avez envie de vous lancer dans le tricot, ces conseils vous seront très précieux. Elle nous donne également plein de petites astuces pour celles qui tricotent déjà. Bonne écoute!
Bonjour Juliette, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode ensemble, bienvenue.
Bonjour Mélanie, je suis ravie d'être là à nouveau pour cet épisode sur le tricot.
Oui, alors on s'était parlé il y a quelques semaines en arrière, c'était l'épisode 37 et on avait parlé plutôt de broderie.
C'est ça, donc toujours autour des arts du fil, encore cette fois-ci.
Ouais. Alors peut-être que pour les personnes qui n'auraient pas encore écouté, allez l'écouter après, mais vu que vous êtes là, restez. Est-ce que Juliette, tu peux te représenter, s'il te plaît?
Oui, alors donc je suis Juliette, j'habite à Paris depuis une dizaine d'années et donc je suis en freelance. Je suis créatrice textile, auteur aux éditions de Saxe et je suis aussi brodeuse pour des maisons de haute couture.
Très bien. Et alors cette passion du tricot, parce qu'aujourd'hui c'est tricot,
oui.
D'où elle vient cette passion du tricot?
Alors cette passion, elle est vraiment arrivée grâce à ma maman. Elle a toujours tricoté les pulls de la droguerie avec les modèles Marie-Claire Idée. Enfin, on a toujours eu le magazine à la maison et j'ai beaucoup beaucoup porté les pulls Marie-Claire Idée de la droguerie. Enfin voilà, tous les modèles en jacquard incroyables. Et je l'ai toujours vu faire ça et forcément ça m'a quand même attirée. Donc je me souviens, je démêlais ses pelotes pendant qu'elle faisait son jacquard. Enfin, j'étais quand même attentive et un jour évidemment j'ai voulu m'y mettre. Donc elle m'a offert des petites aiguilles à tricoter justement de la droguerie. C'est des petites aiguilles qui font peut-être 13 cm. C'est spécial pour faire les échantillons. Mais du coup, je les ai toujours et souvent elles sont en photo dans mes livres. Enfin, vraiment, elles sont extrêmement précieuses. Pour moi, et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, il y a quand même eu un long moment où j'ai pas spécialement tricoté. Ça revenait toujours un peu et puis je faisais beaucoup d'échantillons. Il y avait jamais vraiment de produits, d'objets terminés vraiment à porter ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment un peu avant le confinement, je dois dire, que j'ai totalement repris. Et alors là, je me suis lancée à corps perdu. Je sais pas, c'est revenu d'un coup. Et je crois que techniquement, tout fonctionnait déjà. Je pense que j'avais déjà tellement pratiqué un peu avant, même si c'était des petits bouts de trucs. Ouais. Je me suis mise à faire des pulls, à participer à des wool camps avec d'autres tricoteuses qui m'ont énormément apporté. Et donc voilà, là, j'y suis en plein dedans et je pense que ça s'arrêtera jamais. Ça a même peut-être dépassé ma passion pour la broderie, je crois.
Bon, flûte, enfin non, pas flûte.
Moi, je combine les deux, je brode mes tricots maintenant, mais c'est vrai que...
Il y a une sorte de combinaison des deux, c'est ça, c'est le bon terme. Donc, tu brodes tes pulls,
C'est ça.
Tout ce que tu peux tricoter,
c'est ça. Oui. J'ai fait un livre de vestiaire pour bébé au tricot, d'ailleurs, aux éditions de Saxe, qui est sorti cette année. En fait, il y a les modèles de tricot et j'explique aussi comment les rebroder. Donc après, c'est un livre, on peut suivre exactement le modèle, mais c'est aussi un livre un peu d'inspiration. Si on a juste envie de piocher la broderie, un motif quelque part, un autre modèle ailleurs. Voilà, l'idée, c'est une petite boîte à idées, de piocher un maximum de choses pour en oublier ces vêtements, que ce soit pour les bébés ou pas. D'ailleurs, tout le monde peut se l'approprier.
Oui, et de la même manière, on peut, sur un vêtement qui ne serait pas tricoté main, on peut aussi aller un peu le pimper, l'améliorer.
Totalement.
Soit pour recouvrir une tache, un trou, hein, quelque
aussi,
chose comme ça.
Aussi, carrément. Comme pour la broderie, si la matière est plus... Enfin voilà, si on est vraiment sur du tricot un peu plus épais, des pulls ou quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait sur un de mes pulls, d'ailleurs, qui est dans mon livre « Apprendre la broderie », où j'ai repris un pull long. Que moi j'ai tricoté, mais chacun peut prendre son pull n'importe comment et le rebroder comme il le souhaite. Et je trouve que c'est une manière de broder peut-être plus libre que sur une toile un peu plus fine, parce que souvent on brode des éléments, des végétaux, des fleurs, donc il y a moins besoin d'être précis. On fait des lancers qui sont plus gros. Je trouve que c'est peut-être une broderie un peu plus libre qu'avec un tambour et... Voilà, enfin, moi je le vois comme ça. Après, peut-être que certaines personnes vont se dire oh là là, mais pas du tout, qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise. Je trouve que c'est peut-être une broderie un peu plus intuitive et du coup qui peut déstabiliser.
Oui, c'est ça, parce que autant sur ton tambour à broder, si tu reproduis un motif ou que tu dessines un motif à la main, tu vas donc avoir ce trait de crayon à suivre. Alors que sur le pull, c'est plus compliqué, voire impossible. Selon le pull aussi.
Ouais,
et donc, oui, t'es un peu plus livré à toi-même, sauf
c'est
si
ça.
Tu fais des modèles.
Alors, je pense que pour reporter un motif, c'est un peu compliqué. Après, il y a des petites techniques. Si le tricot est assez fin et plat, c'est vraiment du jersey assez fin, il y a des techniques pour reporter le motif, soit comme un pochoir, j'ai n'importe quoi, imaginons qu'on ait envie de faire comme un cœur. On découpe une forme de cœur dans un papier et on fait le tour avec un petit feutre textile qui s'en va à l'eau, à la chaleur. Donc tout ce qui est bic ne marche pas, tout ce qui est craie, je suis pas sûre que ça marche très bien. Donc il faut vraiment des petits feutres. Je crois qu'il en existe des bleus qui s'en vont à l'eau ou quelque chose comme ça. Et sinon, ce que je fais par exemple pour écrire un mot, pareil, je pars d'une feuille de papier. Et donc j'écris mon mot avec la typo que je souhaite et je perce des petits trous d'environ tous les 5 mm, 1 cm, tout dépend le mot, avec une épingle. Et ensuite je place la feuille sur mon tricot et avec le stylo je fais des points. Et en fait j'ai le mot en pointillé en passant dans tous les petits trous. Et ensuite l'idée c'est de rejoindre... Comme les jeux qu'on faisait quand on était enfant, on a tous les petits points, il faut rejoindre un peu tout pour avoir son motif. Tout ce qui est broderie sur les tricots, on ne va pas avoir des choses trop précises non plus. Après, évidemment, on peut pousser la broderie très fin avec plein de petits fils, mais si on a envie d'avoir juste un fil, c'est carrément possible. Et moi, je conseille vraiment d'utiliser des fils de laine pour rebroder sur les tricots et pas des fils de coton. Je trouve que c'est souvent plus joli, plus heureux quand on utilise la même matière que sa base.
Ah ouais, bah, tu vois, j'aurais pas pensé, j'aurais fait avec mon fil classique de broderie.
Parce que le coton sur la laine, surtout s'il y a un peu de mohair, le coton va être très sec et comme le mohair sera plus mousseux. Alors évidemment, il n'y a aucune règle, si vous voulez broder avec du coton sur vos pulls, il n'y a aucun problème. C'est juste de mon expérience, je trouve qu'il faut peut-être un petit fil de mérinos un peu fin, ou même si le pull c'est entièrement de la laine du mérinos, on peut mettre un peu de mohair ou on peut mettre un peu d'alpaga, mais de voir un peu à quel point le pull est mousseux au niveau de sa texture et là adapter. Bon, souvent on a plein de petits restes de laine, de petites choses. Voilà. Et y a DMC qui m'a fait découvrir, j'en parle là, c'est pas du tout. On n'est pas du tout en partenariat hein, plus que ça. Mais j'ai découvert ce fil qui est assez chouette. C'est Ecovita qui sort fin novembre, je crois. Et en fait, c'est de la laine teinte avec des teintures végétales. Et je trouve que cette base, c'est en échevette, donc on retrouve ce côté un peu rassurant de l'échevette comme pour le coton, donc c'est pas un moulinet, donc ça ne se sépare pas, mais j'ai trouvé que les couleurs étaient belles, et justement pour broder ces pulls, on a un fil là dans le commerce qui arrive, que j'ai hâte, enfin que j'ai déjà un petit peu testé, mais que j'aimerais encore plus expérimenter et faire des choses un peu plus importantes, voilà, pour les personnes qui justement n'auraient pas de reste de laine ou qui ne tricotent pas, qui achètent un pull dans le commerce et qui veulent broder. Si je peux conseiller un fil, je conseillerais peut-être d'aller vers celui-ci.
Ça marche. Alors, donc là, ça nous a fait notre petite transition entre la broderie et le tricot.
Parce que oui, on revient sur le tricot, oui.
Voilà, le tricot. Alors, je ne tricote pas du tout. Par quoi je dois commencer si je veux me mettre au tricot?
Alors, si on reprend juste à partir du matériel. Alors, je dirais, je pense qu'il faut avoir une petite envie de projet. Donc, peut-être... Ouais. Peut-être ce qui est pas mal, c'est d'aller vers des personnes qui tricotent. Si on connaît une amie, une maman, une grand-mère, une sœur, enfin, un frère, des amis garçons, enfin voilà, il y a plein d'hommes qui tricotent aussi. Je dis tout au féminin, mais il y a plein d'hommes. Voilà, d'aller peut-être chercher l'information auprès des gens qui savent déjà. Et si on n'a pas quelqu'un sous la main, qu'on est dimanche et qu'on peut absolument commencer... il faut des aiguilles, hein. Il faut des aiguilles à tricoter qui soient ni trop grosses ni trop petites. Je pense qu'essayer avec des aiguilles 4, numéro 4, numéro 5, la taille des aiguilles, c'est le nombre de millimètres qu'elles font. D'accord. Au niveau du diamètre. Donc voilà, 4 c'est 4 millimètres, 5 c'est 5 millimètres. Après, il y a des demi-tailles, mais ça s'envoie plus tard. Mais on peut commencer par des aiguilles 4 ou 5. Si les aiguilles sont trop petites, c'est un peu plus difficile la prise en main. Et si elles sont vraiment trop grosses, je trouve que, idem, la prise en main n'est pas des plus agréables. Et ensuite, il faut un fil qui soit en adéquation avec cette taille d'aiguille. C'est-à-dire qu'un fil très, très, très fin ne va pas convenir et au contraire, un fil très gros non plus. Donc ça, c'est au moment forcément d'aller acheter le matériel, juste une pelote de laine et les aiguilles, peut-être demander au vendeur, à la vendeuse dans la mercerie ou l'endroit voilà, où vous allez, de conseiller au moins sur ça. On peut commencer, je pense, avec un petit échantillon tout simple au point mousse, de savoir comment monter les mailles, comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que la mécanique est bien rodée, je pense qu'on peut commencer un petit projet. Donc ça peut être, il y en a plein, en plus des gratuits hein, sur internet, un petit headband, ça marche bien. Il peut y avoir, je sais pas, des petites mitaines. Alors moi je conseille des conseils, mais l'écharpe qui tente tout le monde au moment de débuter le tricot, je ne suis pas la plus fervente à conseiller ça parce que c'est hyper long en fait, une écharpe, on ne se rend pas compte. On se dit que c'est extrêmement simple parce que c'est un grand rectangle tout droit, mais c'est d'une redondance absolue. Même quand on sait tricoter, qu'on aime tricoter, l'écharpe, c'est pour ça que tout le monde fait des châles après ou beaucoup de textures où il y a beaucoup plus de fantaisie sur ces accessoires-là, parce qu'en fait, une écharpe toute longue. Donc, c'est vrai que moi, j'en propose une quand même dans mon livre « Apprendre le tricot », mais il y a des rayures. Ce qui fait que ça, on a envie d'arriver à la prochaine rayure et donc il y a une certaine... Comment dire, un peu une carotte au bout de se dire, allez, on change bientôt de sa couleur, plus que quelques rangs. Il faut quelque chose qui entraîne un peu, quitte à rajouter une petite technique de changement de couleur, d'un petit point qui varie, ou trouver une écharpe avec des portions de points qui évoluent aussi. Parce qu'en fait, rapidement, c'est toujours la même chose, en fait, les points de tricot. La maille en droit, après on apprend à faire la maille en vert. Et déjà, une fois qu'on sait faire ça, on sait faire quand même beaucoup de choses. Et c'est bien de sauter un petit peu plus loin dans la technique tout de suite, de ne pas avoir trop peur et de ne pas se lancer dans une écharpe immense à 5-6 pelotes. Parce que là, souvent, les gens arrêtent tout simplement et ne s'y remettent plus.
Donc, on commence pas par le plaid, ni par le...
Non.
par l'écharpe. Donc, petit projet pour démarrer. Oui. Donc, une pelote, c'est typiquement un headband, ça se tricote avec une pelote.
Oui, je pense qu'il faut deux pelotes, tout dépend de la taille d'aiguille, mais deux pelotes pour faire un bonnet. Mais ça, je trouve que c'est pas mal le bonnet aussi pour commencer parce que ça apprend souvent, c'est en côte, donc maille en droit, maille en vert. Et une fois qu'on a bien tourné, tourné, tourné pour aller vers le haut de la tête, il y a des diminutions. Donc comme ça, ça permet voilà, d'apprendre des petites techniques, d'avoir des projets qui apprennent une petite technique à chaque fois, en plus de notre base. Voilà.
D'accord. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de parallèles avec le crochet. Est-ce que... Toi, tu crochettes ou pas ?
Oui, crochette. Après, moi, je trouve peut-être que le... Alors, c'est mon avis, il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord, mais je trouve que le crochet est plus difficile que le tricot. Parce qu'en tricot, super. Si on a réussi à monter ses mailles et qu'on fait des mailles en droit à la chaîne pour faire du point mousse et enchaîner les rangs, on arrive à commencer un petit bout de quelque chose. Je trouve qu'en crochet, il faut commencer par faire soit le petit nœud magique pour commencer un amigurumi ou pour si on veut commencer en rond. Ou alors, il faut apprendre à faire une chaînette avec une tension de fil qui n'est pas toujours facile à trouver. Il faut ensuite, d'un coup, en fait, apprendre une maille serrée. Donc, on peut faire des rangs de mailles serrées, mais ce n'est pas très intéressant. Puis souvent, en crochet, on a envie de monter en volume, de tout de suite faire un petit amigurumi ou quelque chose d'un peu plus... Voilà, et je trouve qu'il y a, techniquement, il y a beaucoup, il faut tout apprendre d'un coup.
Ouais.
La bride, la demi-bride, savoir augmenter, savoir diminuer. Donc, il n'y a pas mille choses à connaître non plus, mais il faut les connaître dès le début. Et peut-être que je trouve que le tricot, on entre un peu plus en douceur dans la technique. Mais après, ça, c'est les affinités de chacun.
Ouais. Bon, en tout cas, on cherche un projet qui nous enthousiasme,
oui.
Et pour lequel on ne va pas se démotiver. On veut vraiment notre headband et donc on va aller jusqu'au bout.
Voilà, c'est ça. Et pareil, un headband, c'est vraiment monter, je ne sais pas, 10-12 mailles, faire du point mousse sur 50 cm. Et ensuite, on joint les deux petits bouts, le début, la fin, et on fronce les deux ensemble et ça fait le petit nœud du milieu. Et le headband, il est fini. Là, vous avez déjà le modèle, lancez-vous.
Ok. Et alors, est-ce que tu recommandes les kits pour apprendre à tricoter ? Parce que tu parlais des aiguilles tout à l'heure, mais c'est des aiguilles droites, c'est ça ?
Oui.
Parce
oui,
qu'il
oui.
existe aussi les aiguilles circulaires.
C'est ça. C'est ça. Donc, on peut. Donc, les aiguilles circulaires, elles permettent. Donc, je suis plutôt pour les aiguilles circulaires, surtout quand on commence, ça permettra de pas les acheter par la suite. Après, souvent, quand on commence, on trouve des aiguilles un peu dans l'endroit où on est. Donc, si on est chez notre grand-mère ou chez notre maman qui a un peu les aiguilles, souvent, c'est des aiguilles droites. C'est pour ça qu'en général, les gens peuvent commencer comme ça. Donc, c'est uniquement aller-retour. Les aiguilles circulaires, c'est pour tricoter en rond, mais on peut aussi tricoter en aller-retour avec ces aiguilles-là. Donc, comme elles permettent les deux manières de faire, c'est bien de les acheter tout de suite, comme ça.
Et de démarrer avec celle-ci.
Oui. Et puis, en fait, c'est au niveau du confort de tricot, je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable parce que, mine de rien, le poids du tricot ne passe pas du bras gauche au bras droit. Et en fait, à la fin, ça peut finir par faire mal, surtout si les projets deviennent un peu plus lourds ou une écharpe qui est tout d'un côté, tout de l'autre. Les aiguilles circulaires, en fait, l'ouvrage, il tombe au milieu. Enfin, le poids est attiré au milieu, ce qui fait que c'est plus réparti. C'est aussi beaucoup plus pratique pour le transport. Si on a envie de tricoter dans le train, dans la voiture, dans une salle d'attente, en fait, juste, on n'est pas là à gêner les voisins avec nos longues aiguilles en métal. Voilà, ça passe aussi dans l'avion. Les aiguilles en métal, non. Donc, ça peut être impressionnant. Puis ça perce les sacs. Enfin bon, c'est mieux d'avoir les aiguilles circulaires. Après, en bois ou en métal, ça, c'est au confort de chacun. Ouais. Après, il faut, comme... pour tous les loisirs créatifs, mais choisir de la bonne qualité au niveau des aiguilles, hyper important pour qu'il y ait un bon confort de tricot, qu'elles ne se cassent pas, qu'elles soient bien pointues aussi au bout, parce que parfois des aiguilles très peu chères, elles vont, et notamment en bambou, parfois le bout n'est pas assez pointu, ou il peut être asymétrique en fonction des deux aiguilles, la jonction, je montre là, mais la jonction ici, elle peut se casser. Si c'est un fil en plastique, ça peut se déclipper. Donc, il faut toujours un fil qui se visse. Et vous verrez aussi que les aiguilles, soit on les dévisse par rapport au câble et on peut interchanger aussi les aiguilles, soit elles sont fixes. Après, tout dépend des projets, encore une fois, et des envies. Commencer avec des... Voilà, je pense que pour acheter des aiguilles circulaires, c'est bien de se faire un petit peu aider ou de se renseigner en fonction du projet. Si c'est un bonnet, peut-être se renseigner sur la longueur du câble qu'il faut vraiment pour pas se retrouver avec des grandes aiguilles, un petit câble, ou savoir aussi quand on manipule de pas avoir des aiguilles minuscules, parce qu'il en existe, il y a des mini, enfin il y a différentes tailles d'aiguilles, donc je trouve que c'est bien d'aller peut-être se renseigner vers quelqu'un qui peut et qui pourra suivre aussi, que ce soit quelqu'un de votre entourage ou votre mercière ou quelqu'un qui sait faire du tricot, à qui vous pourrez vous rattacher un peu de temps en temps si jamais il y a le moindre souci.
Ça marche. Et est-ce que toi, tu pourras nous faire une petite sélection des produits que tu aimes? Parce que souvent sur la page dédiée à l'épisode, on aime bien justement pouvoir retrouver un petit peu une sélection de produits dont on a parlé. Et tu vois, typiquement pour démarrer, c'est vrai que moi, il y a pas longtemps, j'ai acheté de quoi faire du crochet parce que ma fille avait envie de s'y mettre. Et ben, effectivement, c'est pas évident quand t'es dans le rayon toute seule de dire bon, alors qu'est-ce que je vais prendre? J'en sais rien.
Ok.
Donc on aime bien avoir un peu les produits un peu chouchous. Alors donc là, bon, j'ai un petit projet pour démarrer. Après, une fois que ça y est, j'ai pris un peu goût, je suis contente, etc. Alors je vais peut-être juste faire une aparté. Comment j'apprends? Avec les livres, avec des vidéos, il y a plein de choses aujourd'hui. Donc en fait, je choisis ce qui me convient le mieux. Je peux faire aussi un atelier.
Oui, alors si vous avez l'occasion d'être pas loin d'un moment où il y a un salon, où il y a des apéros tricot, ou voilà, encore une fois, je pense que c'est quand même un des meilleurs moyens de commencer à apprendre. Après, c'est pas évident parce qu'on peut faire un atelier et rentrer chez soi et se dire « oulala », voilà, mais il y a quand même une petite base, une petite... les mains ont commencé à se faire.
Par contre, il faut continuer tout de suite. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « c'est bon, je m'y remettrai dans une semaine. » Non, mais je m'en souviendrai. Ouais, tu parles.
Non. C'est vrai que dans les jours qui suivent, même le soir, ou essayer de pratiquer un peu, c'est pas mal. Donc, en effet, il y a les livres. Alors, avec les schémas, si on a déjà un peu pratiqué, on peut retrouver. Mais de but en blanc comme ça, commencer à voir les schémas, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure...
D'accord.
La meilleure possibilité, et bon, je fais ma... Moi, j'ai fait un livre d'apprendre le tricot, donc je vais parler de ce que j'ai fait, ce qui me semblait... Parce que j'ai quand même animé beaucoup d'ateliers tricot, justement, où on commençait par le headband directement. Donc, je vois les questions. J'ai une petite expérience quand même sur vraiment des débutants. Je vois très bien qu'il y a des personnes qui vont comprendre tout de suite la technique, qui vont pas m'appeler pendant 2 heures parce qu'elles vont tout de suite piger. D'autres personnes pour qui ça va être plus compliqué. Je vois, et parfois il suffit de pas grand chose pour que le déclic se fasse. Mais en tout cas, dans le livre que j'ai fait, il y a des tutos vidéo associés à chaque leçon. Donc, avec en plus des photos. Oui, c'est ça. Avec des QR codes à flasher. Donc, en plus des photos pas à pas, on voit vraiment les mains qui tiennent les aiguilles. Et aussi avec des techniques de base pour commencer des projets de base. Parce que c'est vrai que souvent, on achète des livres de tricot et c'est vraiment des bibles du tricot où il y a énormément de choses à connaître. Là, ça reste plutôt simple, où il n'y a pas 1000 possibilités pour monter les mailles, pour les arrêter. J'ai vraiment pris les techniques, mais quand même, comment dire, j'ai quand même fait une sélection de techniques pour que les finitions soient belles. Parce que parfois, on donne aux débutants des techniques qui ne sont pas forcément les plus justes pour faire. Je ne sais pas, si on commence à tricoter un pull, mais il faut commencer à faire monter ses mailles de manière élastique. Et ça, ce n'est pas toujours précisé. Donc voilà, je montre plusieurs techniques associées à des projets et avec des tutos vidéo où je montre comment faire. Et au-delà de ce livre, évidemment, YouTube regorge de vidéos vraiment pour les débutants. et souvent même avec des projets où on tient vraiment par la main, les youtubeuses là font vraiment des petits projets. Je suis sûre qu'il doit y avoir des headbands, donc des vidéos qui doivent durer 30 minutes, une heure pour être vraiment comme un atelier presque.
Bon,
si vous vous trompez là, il n'y a personne, mais...
Oui, c'est chouette. Aujourd'hui, il y a quand même un max de ressources. Oui. Qui nous facilite le travail et la prise en main des choses.
Oui,
comme tu l'as dit, les ateliers, voilà. Tu vois, moi, je systématiquement, quand je brode, je pense à toi en faisant mon petit nœud. Je suis trop contente de savoir faire ce nœud. Alors, j'ai un petit peu galéré
oui,
sur l'aiguille tissée pour faire le nœud à la fin du fil.
C'est ça.
Les premières fois où je l'ai fait, j'ai un peu galéré. Et puis, alors, maintenant, c'est bon, mais alors, je le maîtrise. À la perfection.
Parfait.
Voilà, à chaque fois que je brode, je pense à toi.
Ça fait plaisir.
Donc, quel type de projet je peux faire quand, ça y est, j'ai fait mon headband, j'en ai fait 2-3, je les ai offerts à mes copines et tout ça. Là, je peux faire un pull? Ou c'est encore un peu juste?
Oui. Je dis même après, pourquoi pas le bonnet? C'est un projet un petit peu plus long. Après, si on n'a pas envie de se tricoter un bonnet, je pense que se lancer sur un pull n'est pas aberrant. Ça fait très, très peur comme ça.
Oui. Bah, mais ça fait court, quoi. Enfin,
oui. Mais il y a plein de pulls vraiment très, très basiques qui existent. Plein de modèles, même avec des aiguilles un peu grosses, 5-6, qui permettent... Alors là, éventuellement, un kit, là, je me coupe, mais un kit peut peut-être être judicieux pour être vraiment tenu par la main, de pas... Parce qu'il y a un peu cette étape de trouver son modèle, il y a un modèle qui me plaît, je vais devoir aller acheter la laine, les aiguilles qui vont avec. Il faut un peu, du coup, constituer son kit. Et si on n'a pas envie, si on a un peu peur de se louper, les kits peuvent être pas mal. Après, je pense qu'on peut aussi s'en détacher parce que, bah voilà, si on a envie d'un modèle, on peut aussi aller chercher sa laine. Et même moi, qui tricote beaucoup, parfois j'ai un modèle et je vais voir ma mercière en lui disant, bon ben, là, qu'est-ce que je peux prendre? Et aussi, comment dire, je connais pas toutes les qualités de fil et toutes les grosseurs et voilà, les propriétés de tout, donc... J'arrive et je dis, bon, bah, je veux faire ça, qu'est-ce que vous avez? Et elle a un œil aussi pour aider pour ça. Donc, avec le temps, ça s'affine et puis on finit par avoir nos petites laines préférées. Mais au départ, en fonction de la grosseur et du rendu qu'on veut aussi, parce qu'il y a des fils qui sont, peut-être qu'on y reviendra aussi, de parler vraiment de tout ce qui est fil, fibre, dans un second temps, mais de bien choisir ça, de choisir sa matière. Parce que bon, si on fait un pull, l'idée, c'est d'avoir quand même un peu chaud. Donc, je préviens tout de suite.
À le porter.
Voilà, tricoter n'est pas bon marché. C'est-à-dire que c'est faire du tricot, c'est pas...
On ne va pas payer moins cher notre pull fait main que dans un magasin.
Au contraire. Donc, alors après, pour un bonnet, oui. Pour un bonnet, des plus petits accessoires, c'est beaucoup... Enfin, comment dire, si on se dit, je me lance dans le tricot pour un souci d'économie, c'est pas là qu'il faut aller.
Arrêtez tout de suite.
Je pense qu'en couture, on peut un peu plus trouver si on récupère des coupons, si on recycle.
Ouais.
Même si c'est très cher aussi, si on s'achète les beaux petits tissus et que c'est parfois aussi cher que dans le commerce. Après, c'est le plaisir de faire. Et évidemment, pour le tricot, parce que je défends quand même ma passion, c'est que la laine va être de bien plus belle qualité qu'une laine achetée dans le commerce. C'est que forcément, même si on paye 40 euros de laine, la laine sera évidemment d'une meilleure qualité puisque c'est la matière première qui coûte 40 euros et il n'y a pas la marge de la marque. Donc après, voilà, eux achètent en gros tout ça, mais faut se dire que si on se fait un pull en 100% mérinos, dans le commerce, il n'y aura pas vraiment de pull à 40 euros, très peu. Je ne connais pas tous les pulls qui se font, mais il y aura souvent beaucoup d'acrylique. Il y aura des pulls qui vont plus facilement boulocher aussi. Donc, peut-être que... Enfin, comment dire, sur le coût, sur le papier au moment de payer, c'est plus cher, voire aussi cher. Par contre, dans la durabilité, là, il n'y a pas photo. Par contre...
Et
moi,
le
j'ai
plaisir
des
de l'avoir fait soi-même.
Et le plaisir. Et de l'avoir fait aussi sur mesure, parce qu'au moment de le tricoter, surtout quand on tricote en rond, on peut l'essayer parce que souvent, on tricote à partir du haut. Donc, si on commence au niveau du col et qu'on descend, de temps en temps, on peut réussir à le passer, ce qui fait qu'on peut ajuster les manches, si on a envie d'avoir des manches très longues pour recouvrir ses mains, si au contraire, moi je sais que j'aime bien que ce soit avant les poignets, bon bah pour avoir les mains très libres, je décide absolument de tout ce que je... Enfin, toutes les longueurs, toutes les mesures, si c'est plus ample, moins ample, j'adapte facilement sans changer du tout le modèle, mais parfois en ajustant quelques mesures. Bon.
Ouais. Et alors, quand tu as fini ton tricot, tu as donc ta pièce du haut et les manches, et donc tu dois tout... Alors justement, est-ce que tu les couds ensemble ? Alors déjà, c'est bien ça, est-ce que tu as le corps et les manches ? Le devant, le derrière, comment c'est ?
Alors, ça dépend du modèle qu'on a choisi au départ. Mm-hmm. Donc, il y a des modèles qui se tricotent en rond et des modèles qui se tricotent à plat. Donc, à plat, moi, je déconseillerais d'autant plus quand on commence. Quand il y a un peu une nouvelle génération depuis longtemps maintenant, mais de tricots vraiment en rond. Sans couture, c'est-à-dire qu'on ne fait plus un panneau devant, un panneau dos et deux panneaux manches, parce qu'ensuite, ouais. Il faut tout coudre, et ça, c'est vraiment un enfer, parce que c'est une technique en plus, et c'est minutieux, et puis ça n'en finit pas. Et puis, en fait, aussi, on se rend compte, les quatre panneaux, si on n'a pas bien pris nos mesures, ou si juste... Enfin, on n'est pas modéliste à un moment, donc il se peut qu'on ait des mauvaises surprises, en assemblant tout, et alors qu'on a tout tricoté pendant des heures et tous les panneaux sont faits, tout est cousu, on l'essaye, et si ça marche pas, ouais, c'est extrêmement pénible de tout découdre et de défaire. Donc, en circulaire, c'est beaucoup plus agréable, et il n'y a pas de mauvaise surprise. Si on a bien fait son échantillon de départ, on n'en a pas parlé, mais...
Oui, alors ça veut dire quoi faire cet échantillon ?
Donc, cet échantillon, en fait, avant de commencer un modèle, alors, si vous avez pris... Si vous faites un bonnet, par exemple, et que vous avez pris la bonne taille d'aiguille et la laine qui correspond, ne vous lancez pas dans un échantillon pas possible. C'est pas très grave. Mais par contre, un pull, c'est bien de faire un échantillon. Donc, dans le modèle, il y a toujours cette indication au début, hein, vraiment au début, à côté du matériel en général, sur un carré de 10 par 10, combien il y a de mailles qui sont montées et combien de rangs tricotés. Et comme en général, on n'a pas forcément exactement la même laine ou même d'une tricoteuse à l'autre, on peut tricoter plus serré, plus lâche. Il faut essayer de rentrer le plus possible dans ce carré de 10 par 10 pour essayer d'avoir le même nombre de mailles montées et le même nombre de rangs. Alors, si jamais, parce qu'il se peut que ça varie, si on tricote un peu lâche, on peut se rendre compte que notre carré, ça ne fait pas un 10 par 10, mais un 11 par 12. Donc là, il suffit de descendre d'une demi-taille ou d'une taille. On peut en fait changer la taille d'aiguille pour essayer de bidouiller et que ça s'adapte plus à nos mains et que l'échantillon corresponde mieux. Donc, d'accord. C'est possible de changer de taille d'aiguille en fonction de l'échantillon ou d'augmenter d'une taille aussi. D'accord. Ou d'une demi-taille. On n'est pas obligé de passer, par exemple, de 3 à 4, mais on peut être 3,5 pour essayer d'avoir ce qui est le plus fidèle, en tout cas.
Et alors, les marqueurs trop mignons que me font acheter mes filles en mercerie, ça sert à quoi en vrai ? Parce que moi, elles en font tout et n'importe quoi, mais pas du tout pour le tricot.
Bah, en fait, c'est vraiment...
marquer les rangs ?
C'est ça. Donc, les petits marqueurs sont pour marquer les rangs. Donc, en fonction du projet qu'on tricote... Alors, justement, il ne faut pas croire parce qu'on se dit toujours « Ah, oui, mais le tricot, ça me saoule parce qu'il faut compter. » Il ne faut pas compter. Il y a des marqueurs qui sont là. C'est-à-dire que... Je trouve, alors peut-être qu'il y a d'autres tricoteuses qui vont me dire, moi je compte tout le temps, moi je compte jamais rien, c'est-à-dire que je tricote et je mets, si je tricote en rond, en fait à un moment je cale ce petit, c'est un petit cercle en fait qu'on met autour de l'aiguille mais qui bouge, en fait c'est comme une petite bague et donc j'en mets toujours un au début de mon rang, ce qui fait que si je tricote en rond et que je dois par exemple faire une manche toute droite, ben je sais quand j'arrive au début de mon rang, même si ça change rien parce que je tricote en rond, mais je sais qu'à un moment si je dois m'arrêter, je sais où est le début. D'accord. Je suis pas perdue à le chercher. Et puis si, par exemple, il y a un moment des augmentations pour mon pull entre les manches et le dos. Enfin, voilà, s'il y a des... En fait, c'est des repères. Et je vois à quel moment est mon repère. Et je sais par rapport à mon modèle qu'il faut faire soit une augmentation, soit une diminution. Voilà. Ou même pour de la dentelle, si on va un peu plus loin dans la technique. Mais aucune tricoteuse ne va retenir sa dentelle de tête, sauf si elle est très facile. Mais En fait, on met toujours des marqueurs sur les portions. Si notre motif de dentelle est sur 10 mailles, il y a un marqueur toutes les 10 mailles. Et on voit, on fait chaque portion les unes après les autres, tout en tricotant, et on sait, si jamais il y a une erreur, on peut reprendre nos petites portions de 10 mailles et voir entre chaque marqueur. C'est vraiment des aides et des repères. Donc après, chacun les utilise. Enfin, on peut se retrouver avec 10-15 marqueurs si on veut sur notre pull. Moi, je sais que quand je fais des augmentations pour un pull, j'ai 9 marqueurs, un au début et 2 à chaque point pour faire mes augmentations au niveau des manches. Souvent, j'ai ça. Après, s'il y a des motifs, il faut en mettre autant que ça nous arrange. Et pas se dire, il faut retenir, il faut compter. Ouais. Non, c'est tout le monde, même les plus expertes, si elles font de la dentelle, si elles font du jacquard, elles vont mettre des repères partout. Si c'est pour aider, il faut le prendre.
Oui. Non, mais en plus, là, pour le coup, ça coûte pas grand-chose et c'est à chaque fois très joli. Mm-hmm. Ouais, on en prie avec des petits chats, des trucs comme ça. Donc,
Oui. Et puis, en plus, même si on n'en a pas sous la main, quand on achète des vêtements, parfois, au niveau des étiquettes, il y a des sortes d'épingles à nourrice, mais un peu en forme d'ampoule. Et bien, ça, il faut tout garder parce que ça rentre parfaitement dans les aiguilles. Mais après, en effet, il y en a des très jolies. On peut aussi les fabriquer soi-même. Et vraiment, si c'est la dèche et qu'on n'a rien, on prend un petit bout de fil qu'on plie en deux et on fait un nœud et ça fait une petite boucle.
Ah bah oui, bien sûr.
Ça m'est arrivé plein de fois d'être dans le train ou la voiture. Je ne m'attendais pas à ce que mon modèle me dise qu'à un moment, il y avait cette technique nouvelle ou quelque chose à faire et que j'ai pas de marqueur, bon bah là je coupe un petit bout de ma laine et je fais mon mon petit nœud, donc ça, voilà, il y a plein de manières de faire ces marqueurs.
Ça marche. Donc on plutôt des modèles circulaires plutôt que à plat, hein, tu disais, pour pas avoir à justement refaire comme en couture, assembler ton devant, tes manches, etc. Ok. Qu'est-ce que je peux coudre d'autre qu'un pull?
Une veste? Il y a tout ce qui est gilet. Après, il y a aussi... Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu cache-épaule ou... en plus, des écharpes. Ouais, cache-épaule. Après, il y a une infinité de gants, de moufles, de mitaines. Voilà.
Chaussettes,
guêtres. Si on aime bien faire de la danse, du yoga, un peu cocooning à la maison. Et après, ça peut être des accessoires. On peut tricoter plaids, coussins. Il y a même en ce moment, ça me donne très envie de faire une petite housse de bouillotte, qui est pas mal. Et voilà, après, tout ce qui peut être doudou, jouet pour enfants, tout l'univers de l'enfance. Voilà, il y a une infinité de choses.
On peut même tricoter pour les arbres.
Aussi, oui, c'est yarn bombing, je crois.
Je crois aussi,
que ça s'appelle comme ça. On peut tout recouvrir, oui. Mais il y a même des cache-théières, on peut faire tricoter des cache-théières. Non, mais il y a une infinité.
Un cache-pot, n'importe quoi,
Bon. Et on peut tricoter plein de fibres différentes.
Oui, justement, tu en parlais tout à l'heure, donc des fibres plus ou moins naturelles, c'est ça? Il y a aussi beaucoup de nouvelles marques de laine qui se créent.
Oui.
Plus artisanales, teintées à la main, c'est ça?
C'est ça. Donc, il y a un peu un juste milieu peut-être à trouver. Donc, il faut déjà voir son budget, où est-ce qu'on se situe, combien on est prêt à mettre aussi, hein, parce que de la laine du commerce, les pelotes peuvent aller de 2, 3, 4 euros à... pour des teinturières, voilà, je convertis par rapport à l'écheveau, mais les teinturières, c'est plus autour de 10-14 euros. Voilà, jusqu'à des écheveaux. Donc là, c'est plus 100 grammes. Les pelotes du commerce, elles font 50. Les écheveaux vont faire 100 grammes. Faut savoir que, oui, si vous achetez des écheveaux qui vous plaisent beaucoup, il faut un bobinoir. Parce qu'en fait, les écheveaux, il faut les mettre en pelote. Ne commencez pas à prendre un bout. Moi, je le fais aussi par impatience. J'ai pas envie de bobiner. Je me mets tout de suite à faire mon tricot en me disant « Mais je vais tricoter vraiment longtemps. » Donc, les chevaux, il va déjà bien descendre. Et après, je prends ma pelote. Bon, faut pas faire ça du tout, ça s'en mêle à chaque fois, je le sais, c'est infini. Donc soit avoir un bobby noir, soit avoir quelqu'un à côté qui tient les chevaux, mais comme faisaient nos grands-mères, hein, elles tiennent les chevaux, elles mettent ça sur les barreaux de la chaise, et puis ça pelote, ça bobine pendant un certain temps, sinon les pelotes du commerce sont déjà bobinées. Après moi je trouve que c'est important de connaître la composition quand même, et plus la laine sera chère et moins elle va boulocher, plus elle sera chaude, plus évidemment on rentre dans tout ce qui est éthique de l'animal, de l'humain, voilà, hein, c'est...
Et alors justement, est-ce que tu as des conseils aussi, un peu des produits chouchou, des marques, des acteurs de la laine que tu nous recommandes, que tu aimes particulièrement?
Oui, bah moi j'aime énormément Fonti, la marque Fonti qui est dans la Creuse, que je connais depuis très longtemps, parce que c'est, enfin, quand on connaît un peu l'univers de la laine, c'est quand même une institution, c'est une filature qui est présente depuis. Je connais pas les dates, j'ai pas mal fait mes devoirs. Je connais pas les dates, mais ça, je pense que ça fait vraiment très très longtemps que cette marque existe en France. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir la visiter vraiment en tant que touriste. Hein. Je suis allée à Felletin au Festival de la Laine durant plusieurs, bien 3-4 ans. Et en fait la filature est juste à côté de Felletin, à Rougnat. Et c'est vraiment le bout du monde, mais c'est incroyable, ces grands hangars avec toutes ces machines, mais c'est fabuleux. Vraiment, moi, j'étais complètement émerveillée. Toutes ces pelotes qui se font, tous les gens qui travaillent dans cette filature. Et puis, il y a vraiment à cœur de choisir vraiment des moutons de qualité qui sont en France, qui sont en Europe. Alors, évidemment... On va pas se faire d'illusions. Les alpagas sont, ils sont pas vraiment en Europe. Il y en a, mais la majorité c'est beaucoup Pérou et ces coins-là, Amérique du Sud. Donc faut aussi aller, faut laisser l'animal dans son milieu naturel et aller chercher laine. Donc évidemment, si on a l'alpaga, ça va venir de plus loin, mais c'est normal si on choisit cette matière. Mais après, il y a beaucoup de moutons qui viennent, enfin, de la laine qui vient du Portugal. Il y a un choix de couleurs qui est magnifique, hein, qui est fait avec attention. Les couleurs sont renouvelées. Donc, je trouve que c'est une très belle marque qui a une très grande gamme de fils. On peut tout tricoter. Il y en a qui passent en machine ou pas. Ça, c'est un produit qui est mis ensuite. Hein, donc, c'est à la tricoteuse de savoir comment elle se situe aussi. Si elle veut quelque chose pour la machine à laver ou elle lave à la main. Donc, ça, c'est chacun qui décide. Mais voilà, j'aime beaucoup cette marque. Après, évidemment, toutes les teinturières indépendantes, hein, toutes de France et d'ailleurs sont incroyables et font des couleurs fabuleuses. Voilà, moi, c'est vrai que je me tourne beaucoup vers ça, notamment pour les petites laines à chaussettes. Donc là, pour les compositions, hein, où il y a toujours un petit peu de nylon dedans. Et sinon, c'est du mérinos, mais avec plein de couleurs fabuleuses. Vraiment, il y a une infinité de choix et de nuances, ce qu'on va moins retrouver dans le commerce, je trouve.
Ouais, et tu veux en citer quelques-unes ?
Je suis allée au Nitit, donc je m'en souviens de quelques-unes. Il y a Wooliette, hein, qui fait des très belles couleurs. Il y a Laine Amourée. Il y a La Bien-Aimée aussi, que j'aime bien. Il y a Le Chat qui tricote, qui fait plein de belles choses. Il y a Le Bruit des Aiguilles, que j'aime énormément parce qu'elle fait des laines autorayantes. C'est-à-dire que dans son processus de teinture, en fait, quand on tricote des chaussettes, la laine change de couleur pour faire des rayures extrêmement régulières, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de changer de couleur. Donc la laine va auto-rayante, quoi. On tricote 4 ans et fait la laine va changer de couleur tous les 4 ans. Donc c'est sa manière de teindre qui... Enfin moi je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Bon là comme ça je suis sûre que j'en oublie plein.
Et des marques de patrons un peu chouchoutes, il y en a aussi ?
Ouais, bon bah moi je suis une grande fan de Petite Knit. Je sais pas si on la présente encore, c'est quand même... elle est extrêmement, extrêmement connue et notamment pour les débutants, je trouve que... Moi j'ai aussi un peu commencé par elle, je trouve qu'elle a des modèles qui sont simples, c'est des basiques qui peuvent être un tout petit peu modifiées si on a envie par rapport à la taille ou l'ampleur, l'aisance... positive qu'on veut, si on veut quelque chose de ample ou pas. Mais c'est une bonne... Moi, je conseillerais ça. Après, j'aime beaucoup Marie-Christine Lévesque, qui est au Québec, je crois. Elle fait beaucoup de chaussettes. Elle fait des pulls, hein, des cardigans aussi. Elle fait pas mal de vidéos sur YouTube. Je l'aime bien. Elle est très mignonne. Qui est-ce que j'aime bien d'autre? Après, il y a Knitting for Olive, hein, qui est aussi une marque. Donc, j'ai jamais essayé la laine, mais les patrons sont très, très beaux. Donc, ceux que j'aime bien aussi, il y a Cynthia Vallée, qui, pareil, est très, très connue et qui fait des petits doudous au tricot, absolument magnifiques. Et là, donc, il est très connu aussi, mais c'est Steven West, qui est au Danemark, je crois. Et lui, il fait des choses absolument folles. Donc très, très coloré, très bariolé, avec 1000 points, des textures différentes. Donc je voyais ça de loin, je me suis pas plus... Voilà, c'était trop pour moi. C'était trop coloré, il y avait trop de choses. Mais récemment, il a fait, comme tous les ans, un cal mystère pour un châle. Donc un cal, parce que souvent, quand on rentre dans le monde du tricot, on voit ce mot un peu partout, c'est un knit long. C'est-à-dire que c'est un patron qu'on tricote tous en même temps. Donc ça peut être, on se fait un week-end entre copines et on tricote le même bonnet, c'est un cal. C'est okay. Comme ça qu'on appelle ça. Et lui, il fait vraiment ça à échelle mondiale. Et comme il est connu, en fait, il y a des milliers de personnes qui font ce châle mystère. Et toutes les semaines, il donne un indice. Donc on voit sur les réseaux, sur Instagram, Ravelry, parce que c'est le réseau social du tricot, bah, toutes les personnes du monde entier qui tricotent la même chose, mais du coup dans des couleurs complètement différentes, qui de temps en temps adaptent des choses, changent un peu le modèle, enfin voilà. Donc c'est la première fois que je participais à un cal de cette ampleur-là. Donc je suis très très en retard, mais je suis ravie. Et finalement... Il n'est pas si bariolé que ça, celui-là.
Mais au départ, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, c'est ça?
Non.
C'est mystère? D'accord.
C'est ça. Donc, il faut avoir le goût du risque et il faut quand même aimer le designer et son univers. Parce oui. Que c'est, voilà, là, je me suis dit, bon, j'ai vu un peu le premier indice, parce que j'ai un peu triché, et je me suis dit, ok, c'est bien. Ça va le faire et je suis pas déçue, et même si je suis très en retard, je vais le finir parce que je le trouve très beau et je voilà, donc je vais un peu dans son univers avec plein de points différents. Et là, pour le coup, on est accompagné avec des vidéos en permanence sur le moindre point, le moindre truc. Il y a quand même on est pris par la main plus.
Bon, bah super, parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Juliette. On a fait un gros tour du sujet tricot.
Oui.
Vous nous direz, hein, et vous qui nous écoutez, si ça vous a donné envie de vous y mettre, et surtout si vous vous y êtes mise. Parce que moi, j'ai envie de tout commencer en faisant ce podcast. Mais le tricot, ça m'attire pas pour l'instant. Un peu comme le crochet, je vois ça de manière un peu compliquée. Et en même temps, il y a tellement de gens qui tricotent et qui font du crochet et qui y arrivent. Donc, je me dis, bon, bah, je ne suis pas plus bête qu'une autre, je devrais y arriver.
C'est sûr.
Mais voilà, il faut faire des choix. On n'a que 24 heures dans la journée et un peu de temps à faire. On ne peut pas toujours passer nos journées à créer. Mais en tout cas, écoute, c'est une super immersion dans ce monde de la laine, du tricot. Donc, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Bah, j'espère que je vous aurai donné envie de commencer. N'hésitez pas à m'envoyer vos bouts de projet. Et puis, s'il y a besoin de conseils sur une vidéo, une technique, donc ne m'envoyez pas des pavés. Mais voilà, de temps en temps. Non, mais parce que je veux pas faire porte ouverte. Je réponds à toutes vos questions en tricot, parce que je ne vais pas pouvoir. Mais s'il y a besoin d'une petite vidéo technique, de dire, bon, bah là, je veux commencer, quel lien vers quelle vidéo, ça, je peux conseiller, avec plaisir.
Bien, super. Alors voilà, il y aura déjà le premier point d'entrée où on va déjà mettre plein de choses qui sera à la page de l'épisode sur culturacrea.fr. Et puis, on peut faire un petit toc-toc de temps en temps sur Insta.
Oui, c'est ça. Si... Oui. Il ne faut pas hésiter et je renvoie vers des techniques. Je commence à être un peu rodée sur quelques youtubeuses. Si je peux en conseiller une comme ça, déjà, ça ouvre la porte. J'aime beaucoup Clo Tricot. Pareil, elle est à Montréal, je crois. Elle est au... Oui, Je pense qu'elle est là-bas. Mais du coup, c'est des vidéos qui sont en français et on reprend le début de la technique jusqu'à des choses un peu plus expertes. Je trouve qu'elle explique extrêmement bien. Ses vidéos sont claires et elle est très pro. Donc, ouais, je recommande Clo Tricot sur YouTube.
Eh ben super. Merci beaucoup, Juliette, pour ton temps et à bientôt.
Un grand merci et à bientôt pour un autre art du fil, peut-être.
Bien sûr. Salut.
Salut.
Me revoici. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, quelques créations de Juliette sur la page dédiée à cet épisode sur culturacrea.fr, ainsi que ses produits chouchou. Pour rappel, pour partager vos propres créations sur culturacrea.fr, c'est on ne peut plus simple, c'est évidemment gratuit, et c'est un espace très convivial, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, pensez à vous abonner au podcast sur l'appli de podcast que vous utilisez, là, maintenant, tout de suite. Là aussi, c'est gratuit et ça vous permet d'être alerté à chaque nouvel épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour la suite de nos rencontres DIY. À bientôt !